Monsieur Trump, qui parle de l'emploi aux États-Unis, ça va pas si mal qu'on aurait pu le craindre, Raphaël.
Ça va pas si mal, ça va pas si bien en même temps. On va mettre un petit peu de nuance ensemble, Marie-Claude, parce
Oui.
qu'il y a beaucoup de grands titres vraiment tape à l'œil qu'on a eu dans les premières heures de la matinée aujourd'hui, comme quoi on avait à peu près 5 millions d'emplois qui avaient été créés aux États-Unis. Le taux de chômage était descendu à un niveau plus bas que prévu. Mais justement, mettons ça dans le contexte. Le taux de chômage en question, là, il est de 11,1%. Ça, là, c'est vrai que c'est plus bas que le mois dernier, mais ce qui est également vrai, c'est que c'est le plus haut niveau de chômage qu'on a eu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en excluant évidemment la pandémie actuelle, là, tu remontes à avant 2020, on n'a jamais atteint ça. Même dans le pire du pire du pire de la crise financière et économique de 2007-2008, on n'avait pas atteint ça. Ça, c'est de un. De deux, tu as encore 20 millions, presque 20 millions d'Américains qui sont sur l'assurance-emploi. Tu as 1,5 million de nouvelles demandes à l'assurance-emploi qui ont été faites la semaine dernière seulement. Ça aussi, dans le contexte historique, là, c'est plus que le double du sommet qu'on avait eu avant 2020, c'était pendant la récession de 82. Et trois, et finalement, parce que on parle beaucoup de chômage, on ne parle pas de, ou tout au moins on ne parle pas assez, de toutes ces personnes aux États-Unis qui ont peut-être officiellement gardé leur emploi, mais dont les heures ont été coupées et continuent d'être coupées. Donc, ils ne sont pas, ces personnes-là ne sont pas recensées comme étant chômeurs. Il ne faut pas se leurrer et penser que tout va bien pour eux nécessairement au niveau financier. Fait que, tu sais, oui, c'est un plus beau portrait que ce qu'on avait il y a à peine quelques semaines.
Oui.
Mais on est très, très loin des sorties du bois, là.
Oui, puis M. Trump essaie de redorer tout ça parce que lui, on sait bien, tant que l'économie peut fonctionner, ça augmente ses chances de réélection. Parlons maintenant de cette autre histoire qui fait la manchette partout aux États-Unis. L'ex de Jeffrey Epstein, on sait que Jeffrey Epstein, lui, s'est enlevé la vie en prison, mais quelqu'un peut-être paiera pour les crimes de cet homme.
Peut-être, peut-être enfin il y aurait espoir. Je sais pas, Marc-Claude, pour toi, là, personnellement, tu sais, je fais rarement dans l'opinion, sauf sur le cas de Jeffrey Epstein, il y a pas grand-chose qui me dégoûte autant, pas tant à cause de la nature des crimes, évidemment, complètement odieux, quand on parle de trafic de mineurs, d'exploitation sexuelle, etc., mais à cause du manque aussi flagrant de justice. De un, que Jeffrey Epstein n'a jamais complètement eu à faire face à la justice, mais que tous ses accomplices, tous ses collègues, tous ses compagnons, ses compagnes, aient pendant aussi longtemps que ça évité la justice. Mais là, il y a du positif là-dedans aussi, dans la mesure où un an, en fait, presque jour pour jour après l'arrestation de M. Epstein, ben c'est son acolyte, Ghislaine Maxwell, qui est arrêtée à son tour aujourd'hui, accusée, elle aussi, de trafic de mineurs. Écoute, tu te rappelleras, je t'avais parlé du fameux documentaire sur Jeffrey Epstein.
Oui, que je n'ai pas vu encore.
Je te le recommande. Oui. En fait, je te le recommande. Parce que, écoute, dans un sens, c'est pas le fun à regarder, évidemment, mais en même temps, c'est tellement important de le voir pour comprendre la réalité de ça. Et tu vas le voir, Marc-Claude, si tu commences à le regarder ce soir, là, il y a un nom qui revient presque autant que Epstein dans ce documentaire-là, et c'est Maxwell. Tu as une victime après l'autre, après l'autre, après l'autre.
La fille du magnat de la presse.
Oui, en effet. Et toutes les victimes disent la même chose. Elles sont interrogées séparément et elles répètent toutes la même chose, c'est-à-dire que c'est cette femme-là, Ghislaine Maxwell, qui les a piégées, qui, après coup, défendait Epstein. Et là, donc, c'est elle qui est arrêtée. Va peut-être, elle, avoir à vraiment faire face à la justice, mais il reste quand même deux questions pour moi fondamentales. La première, c'est qu'en est-il de tous les autres? Tu sais, c'était un réseau. On le démontre très, très clairement là, dans le documentaire. D'ailleurs, là, c'était pas juste une personne et c'était même pas juste deux personnes. On le sait, c'était un réseau non seulement extrêmement vaste, mais extrêmement connecté. Les riches et puissants de ce monde, le nom du prince Andrew, tu le sais comme
oui,
moi.
Oui, le favori de la reine qui était nommé là-dedans.
On a pas mal parlé. Ben, c'est ça. Pourquoi est-ce que ce type-là est toujours aussi protégé? Et parlant de protection, et pour moi, c'est la plus grosse question là, qui reste à ce jour, quand Epstein a été arrêté la première fois, parce que faut-il le rappeler, il avait été arrêté là, avant 2019, là, à la fin, milieu, fin des années 2000. Et il avait obtenu une espèce de deal.
Oui.
Pardonne l'anglicisme, là,
oui.
Inimaginable, dans lequel non seulement Epstein lui-même a pratiquement pas été puni, mais dans lequel tous ses accomplices ont reçu une immunité totale. Donc, la question pour moi, Marc-Claude, c'est la suivante. pourquoi est-ce qu'on n'enquête pas sur ce deal-là qui a été fait? Comment ça s'est fait? Comment ça a pu se faire? Ne serait-ce qu'au niveau du Congrès américain. Tu sais, le Congrès n'a pas juste le pouvoir de légiférer, il a le pouvoir de lancer des enquêtes publiques de la sorte. Et ça n'a pas être une affaire partisane. Présentement, oui, les Républicains contrôlent le Sénat, les démocrates, la Chambre. Pourquoi est-ce qu'on n'enquête pas?
Est-ce que dans le documentaire, est-ce qu'on pose ces questions-là aussi?
On pose pas la deuxième question explicitement, c'est-à-dire on demande pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore enquêté en même temps.
Parce que toi et moi, on avait parlé en nombre de ça.
Ben justement, comment ça que c'est possible que Mercure Lavallée et Raphaël Jacob se parlent de ça en onde et que ça ne soit pas encore fait, alors qu'on s'en parle, toi et moi, depuis des mois? Tu sais, il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Et la démocratie, c'est vrai pour la démocratie américaine, c'est vrai pour n'importe quelle démocratie, c'est censé être appuyé sur certains concepts de base. L'un d'eux, c'est l'égalité devant la loi. Peux-tu me dire que ce concept-là a été et continue d'être respecté aujourd'hui dans le dossier Epstein?
Je pense que non, on s'entend là-dessus. Et c'était un homme qui était très, 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 très riche. Mm-hmm. Alors, on peut imaginer des choses, en effet. Ben, écoute, Raphaël Jacob, on se laisse là-dessus pour mieux se retrouver demain.
À demain!
On va s'arrêter le temps des nouvelles. À demain, Raphaël. Et puis, tout de suite après, ben, ce sera l'heure de nos chroniqueurs. Mais avant, on va parler aussi de feux très, très dangereux en ville. Je vous explique comment les éviter. À tout de suite.